Le paddock RMC, Jean-Luc Roy,
Valentin Jamin.
Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro du paddock sur RMC, le débrief du Grand Prix de Hongrie. Très intéressant, passionnant, indécis ce week-end. Dernier tour de piste avant la pause estivale que l'on va analyser avec nos consultants. Évidemment, comme d'habitude, j'accueille Jean-Luc Roy. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Valentin, bienvenue au club.
Mais
bienvenue
merci, dans le paddock. Merci beaucoup. Salut Séraphin Bette est avec nous également.
Salut Valentin, salut à tous.
Et
salut
Tristan Van den Driche pour compléter ce trio magique. Salut Tristan.
Hello Valentin, salut tout le monde.
On embrasse, messieurs, évidemment, Arnaud Valadon qui est rentré au stand quelques jours pour accueillir peut-être un futur pilote, on le souhaite.
Le petit Nolan.
Voilà, le petit Nolan qui va bien, tout le monde va bien et c'est le principal, évidemment. Vous retrouverez Arnaud très vite, évidemment. On va parler donc de ce Grand Prix de Hongrie, comme d'habitude. On va commencer pour ce Grand Prix à rebondissement qui finit comme souvent par un doublé de McLaren. Eh bien, par vous demander vos notes, messieurs. Jean-Luc Roy, quelle note tu mets sur 5 à ce Grand Prix ?
Ah bah écoute, pour moi c'est le plus beau de la saison, j'y vais carrément, j'ai toujours noté assez dur, mais là je mets 4.
Belle note, 4. Jean-Luc, on l'a connu plus dur, hein, c'est vrai. Pour ce Grand Prix qui t'a beaucoup plu, on va y revenir en détail évidemment. Séraphin ?
Moi je vais mettre un 3 sur 5.
3 sur 5, un petit peu plus sévère, tu nous diras pourquoi. Et puis Tristan, pour terminer, combien sur 5 pour ce Grand Prix de Hongrie, la victoire de Lando Norris ?
Allez, je vous coupe la poire en deux, 3,5, parce qu'il nous a quand même bien tenu en haleine.
Et c'est vrai, jusqu'au bout, on a Oscar Piastri qui a fini évidemment dans les échappements de Lando Norris. On va commencer, non pas par parler, messieurs, de McLaren, qui a encore brillé, hein, victoire, on l'a dit, de Lando Norris, qui recolle d'ailleurs le Britannique à 9 points au championnat pour eh bien, revenir sur Oscar Piastri, son coéquipier, podium complété par George Russell sur sa Mercedes. Mais ça a aussi et surtout été un week-end très dur pour Ferrari. Lewis Hamilton, 12e, on en parle en détail dans un instant, mais hier, c'est surtout Charles Leclerc, parti en pole, qui a mené 40 tours durant et qui finit 4e de la course. D'ailleurs, Jean-Luc, sans qu'on comprenne vraiment comment et pourquoi il en est arrivé là.
Oui, alors effectivement, le mystère, ça tu as raison de le lever, et à la minute où nous parlons, hein, quand on enregistre ce paddock le lundi matin, on n'a toujours pas l'explication officielle de Ferrari qui se perd en conjecture, c'est le mot. En tout cas, Charles est revenu sur ses déclarations à l'emporte-pièce, et c'est normal, lui, pendant l'épreuve, il était fou furieux, il a parlé de stratégie, je vous avais prévenu, on n'aurait jamais dû faire comme ça. Ensuite, quand il est descendu de la monoplace, on lui a dit qu'il y avait un problème sur la machine, et puis... ça a été corroboré par Fred Vasseur plus tard en disant « on ne sait pas pourquoi, d'habitude quand il y a un problème on perd 2 à 3 dixièmes, là on a perdu 2 à 3 secondes au tour et on l'a vu tout de suite ». Alors on y reviendra comme tu dis dans le détail parce que moi j'ai une amorce d'explication aussi et ça concerne, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les ronds en caoutchouc noir qui sont positionnés aux quatre coins, voilà, parce que quand on n'exploite pas ça, c'est des secondes qu'on perd immédiatement. Bon, on va y revenir probablement, alors ça a plusieurs causes possibles, hein. Je suis pas ingénieur et je suis pas malheureusement à l'intérieur de la Scuderia. Pour reprendre les espoirs, je vais y arriver, les déceptions. Alors l'espoir, bah, c'est cette pole fantastique de Charles Leclerc qui ne s'y attendait pas non plus. 27e pole de sa carrière de pilote de Formule 1. Ça le met quand même au 11e rang dans l'histoire de la F1. À deux poles seulement de Juan Manuel Fangio, c'est quand même pas rien. Hein. Donc il est en train de marquer son époque, d'entrer dans l'histoire, Charles, avec une monoplace notoirement inférieure évidemment au McLaren. Alors, c'est vrai qu'il y a eu des changements pendant les qualifs, pendant la Q3, notamment de direction du vent et de force du vent qui ont perturbé pas mal de ses adversaires et notamment un tout petit peu les McLaren, semble-t-il. Comme l'a dit Oscar, on va pas mettre ça sur le compte du vent. Mais il n'empêche que Charles a sorti un tour incroyable en Q3. Alors, par parenthèse, qui était moins rapide, et c'est le cas pour tout le monde, que ce qu'ils ont fait en Q1 et en Q2. La raison est peut-être cette histoire de vent, notamment en Q2. Bon, à vérifier en tout cas pour certains. Donc l'espoir c'était ça, et puis l'énorme déception, tu l'as évoqué, après le deuxième arrêt au stand, donc après le 41e tour, où là il a perdu toute l'efficacité de sa monoplace et malheureusement a sombré en disant si ça continue comme ça, on va perdre le podium, et ils ont fini par perdre le podium.
Ce message radio, effectivement, il a dit ça à ses ingénieurs notamment, c'est incroyablement frustrant, nous avons perdu toute notre compétitivité, vous auriez dû m'écouter, donc il était très énervé, j'aurais trouvé une manière différente de gérer ces problèmes, la voiture est juste impossible à piloter, effectivement. Ce sera un miracle si nous finissons sur le podium. Séraphin, 27 pôles, Jean-Luc l'a dit, 5 victoires seulement pour Leclerc.
Exactement, tu as raison de souligner. C'est vrai que derrière, pour les convertir en victoire, Charles Leclerc, il a beaucoup de circonstances de course qui sont jamais à son avantage, évidemment. La chance se provoque, comme on dit. Il avait les clés en main, hein, clairement. Il l'a dit, à un moment donné, pour la gagner, cette course. Quand on voit quand même le premier relais qu'il fait, c'est vrai que c'était incroyable. Avec derrière lui, Piastri, il le tenait hors du DRS quand même, en plus. Donc c'était assez.
2 secondes et demie, 3 secondes.
Ouais, donc c'était assez prodigieux. Je ne me souviens pas d'avoir, là, sur les quelques courses, d'avoir vu comme ça un pilote tenir aussi longtemps une McLaren.
Ça lui rappelle Monaco.
Qui sont le Hungaroring et tout. Donc, non, un circuit qui, en plus, qui, effectivement, Jean-Luc l'a dit, mais il fait une pole position qui a surpris tout le monde, hein, même j'y fais arriver.
Surtout lui.
On ne s'y attendait pas. Après, ceci dit, qu'on voit quand même les écarts qu'on a entre le premier et le quatrième, cinquième. Alonso qui est cinquième quand même, mais on a un, deux, dix. C'est extrêmement serré, hein, faut aussi le souligner, c'est incroyable. Mais effectivement. Ce qui est, et Jean-Luc l'a dit, on n'a pas encore d'explication officielle, mais donc c'est sur ce deuxième relais en pneu dur, hein, puisque Charles Leclerc il s'est arrêté au 40e tour. D'ailleurs, on a vu McLaren qui ont un peu justement précipité l'arrêt de stand parce qu'ils ont fait croire qu'ils allaient s'arrêter, et donc ça a précipité chez Ferrari. Et très bizarre d'avoir un relais avec des temps en tour à 1 seconde, 2 secondes des temps des autres. C'est difficile d'avoir des explications. Au début, ce que Charles Leclerc reprochait à son équipe, hein, d'après ce qu'on pouvait comprendre, c'était de dire qu'il y avait un réglage qui avait été effectué sur l'aileron avant au moment de son arrêt au stand. Et en tout cas, on ne l'a pas prévenu. Ça ne peut pas expliquer un écart aussi important, en tous les cas, hein, d'avoir une chose aussi importante. Donc après, ce qu'on a évoqué, c'est le châssis. Il y aurait une erreur avec la voiture. Est-ce que c'est la hauteur aussi de caisse? C'est difficile de. Il n'y a pas d'explication claire. Il y a eu d'ailleurs un peu un imbroglio au niveau de la communication à la fin de la course entre.
Oui, on sent bien qu'ils savent vraiment pas vraiment. Enfin, ils savent pas vraiment en fait. C'est vrai.
Mais
que
l'écart est trop important. C'est énorme.
C'est pas un détail. C'est pas un détail.
Voilà, c'est vraiment étonnant. Donc évidemment que c'est triste pour lui et sa frustration, elle se comprend à la radio. C'est aussi normal. Hein, c'est des pilotes sur le coup perdre comme ça une place, ça fait mal. Donc on est évidemment très très frustré. Et puis derrière, voilà, c'était une bataille derrière entre vraiment le. On savait que. McLaren, voilà, ils étaient dans tous les cas, ils allaient en profiter. Et en fait, Charles Leclerc a même pas pu se battre, en fait. Donc,
de toute façon,
c'est ça qui est regrettable.
C'est sûr, Tristan, dès que vous avez un souci comme ça en piste, que vous ralentissez, quand on voit le niveau des McLaren aujourd'hui, on dit au revoir à tout espoir très rapidement. Donc, c'était absolument terrible de voir cette situation un peu plus de la mi-course pour Charles Leclerc.
Bah, en fait, ce qui était surtout très triste, c'est que pendant les 40 premiers tours, il avait un meilleur rythme que ces deux McLaren. Donc, on s'est très vite dit, et en fait, il est capable de le faire. Il est capable de sortir la performance de l'année comme il le fait souvent, en fait, où il y a des courses, il rentre simplement dans une autre dimension. Moi, ce Grand Prix de Hongrie, c'est un petit peu le résumé de sa carrière, j'ai l'impression. Un pilote qui extrait 120-130% de sa monoplace en qualification, qui fait un début de course parfait, mais qui, au final, est soit lâché par lui-même, là, ça a été mentalement, je pense, et on l'a vu avec sa réaction face au dépassement de George Russell, notamment, et également par son équipe, parce que là, il faut le mettre, la faute, elle est à 100% sur la gestion de Ferrari. Et puis, oui, ce qui est triste aussi, c'est à quel point la relation, je trouve, est entravée entre Charles Leclerc et son équipe. Ferrari qui, comme d'habitude, nous sort des grands discours comme quoi le châssis était cassé. Je ne suis pas dans les petits papiers comme Jean-Luc, mais un châssis, ça ne se casse pas comme ça. Ou en tout cas, si ça se casse comme ça, c'est d'une tristesse absolue. Le problème, c'est ce manque de communication. Et on l'a très bien compris à la radio qu'en fait, Ferrari savait qu'ils allaient avoir ce problème d'usure de la planche, parce que c'est ce sur quoi le problème penche le plus. C'est une usure de la planche comme ils l'ont eu en Chine. Ferrari a voulu... Qui a entraîné les deux disqualifications des voitures.
Non, Ferrari l'autre c'était le poids. Hein.
L'autre c'était le poids, pardon. Mais aussi lié, entre autres, à ça, parce qu'ils ont aussi réduit le poids pour éviter l'usure. Mais là, ce qu'on comprend, c'est qu'ils en ont, d'après la radio de Charles Leclerc, hein, ils en ont discuté avant. Ils savaient qu'à un moment, ils allaient peut-être devoir réduire des choses. Et au final, on a fait des changements sur la monoplace sans réellement lui dire à l'arrêt au stand, peut-être pour pas alarmer les autres écuries. Mais du coup, lui s'est retrouvé dans une incompréhension totale. Et derrière, un pilote, on le sait bien, surtout cette saison, avec d'autres exemples, ça a besoin de confiance. Et en fait, on a retiré toute la confiance qu'on lui avait laissée sur ce début de course.
Jean-Luc, donc,
c'est surtout ça le
Tristan, oui, pardon, hein, je coupe un peu la parole. Pas de soucis. Mais parce que là, j'ai des éclairages plusieurs. Alors, voilà, moi. Mon explication, je vais me lancer carrément, c'est la hauteur de caisse. Alors tu l'as dit, c'est lié évidemment à l'usure de cette fameuse planche qui leur a coûté un déclassement en Chine. Pour qu'une monoplace avec la configuration actuelle, avec la réglementation actuelle, soit efficace, il faut qu'elle soit évidemment aussi proche que possible de la piste pour générer le maximum de dépression. Pour ça, bah évidemment, on la règle très bas. On joue aussi sur la pression des pneumatiques. Et tu me vois venir. Il y a une question de réglage de hauteur de caisse, bien évidemment. Et ça, on peut se permettre de le faire dans les deux premiers relais. Seulement, on sait bien qu'à la fin du Grand Prix, on va être contrôlé. Et donc, on doit éventuellement pouvoir modifier, si on le peut, la hauteur de caisse. Et on joue aussi comment ? Sur la pression des pneus. Et je parlais des quatre ronds caoutchouc noir. Et ben voilà, parce que vous savez que les pressions des pneumatiques sont extrêmement réglementées également en Formule 1. Parce que pour avoir de l'adhérence, il faut les réduire, comme à moto d'ailleurs. Si vous suivez les Grands Prix moto, c'est le même débat avec Michelin. Là, c'est le même débat avec Pirelli. Donc, ils imposent des pressions minimales, justement, pour préserver leurs pneumatiques avant tout. Parce que ce qu'ils craignent par-dessus tout, c'est la crevaison. Et là, probablement chez Ferrari, on a légèrement, très légèrement surgonflé les pneumatiques justement pour générer de la hauteur de caisse. Et donc, on a réduit l'appui aéro et on l'a trop fait manifestement et on a perdu 2 à 3 secondes. Voilà mon explication. Et du coup, les pneumatiques ne fonctionnent pas dans la fenêtre de température qui, vous le savez, est extrêmement réduite, plus que jamais. C'est autour de 110 degrés, mais c'est 110 degrés plus ou moins 2 ou 3 degrés, pas 5 ou pas 10. Donc, voilà, l'explication, à mon sens, elle est là. Alors, cassure de châssis, j'y crois pas. Enfin, à moins qu'on va peut-être être là aussi détrompé parce qu'il aurait tapé un vibreur, mais j'ai pas vu ça du tout. Et Charles l'aurait dit. Donc, oui, voilà, oui, voilà. Je pense que la raison, à mon avis, elle est là.
On flirte avec la limite et ça s'est retourné contre Ferrari. Et c'était pas le seul problème du week-end puisqu'il y a eu l'épisode Lewis Hamilton, messieurs. 12e hier, plutôt invisible. Pour la première fois, pas dans les points en Hongrie et surtout sorti en Q2 samedi. Il était très très agacé, Lewis Hamilton, après justement cette élimination en Q2.
I'm just useless.
Je suis inutile, absolument inutile. L'équipe n'a pas de problème, vous le voyez bien avec la pole de Charles Leclerc. Il devrait probablement changer de pilote.
Jean-Luc, c'est une énorme punchline de Lewis Hamilton.
Ah, c'est terrible. Écoute, je te dis, ça fait déjà plusieurs Grands Prix que je l'évoque, quand il parle, lui, de ses problèmes. C'est presque gênant, parce qu'encore une fois, avec le palmarès absolument immense, incroyable, unique même, qui est le sien, on doit le répéter, les 7 titres, évidemment, les 104 pôles et les 105 victoires, entendre un pilote s'exprimer de cette manière en disant « Non, le problème, c'est moi, ça n'est pas l'écurie », surtout que ce jour-là, en
Charles
plus…
Charles fait la pole,
voilà, ça met en lumière. Alors même si le décalage en temps, en chrono, mais ça c'est la F1 d'aujourd'hui, il est extrêmement réduit. C'est vrai qu'il est à 2, 3, 4 dixièmes au pire. C'est pas un monde, il fut une époque où c'était même remarquable d'établir des performances comme celle-là. Mais avec les écarts qui sont ceux de la Formule 1 en 2025, c'est un gouffre. La preuve, et là, il n'a pas d'explication, il n'arrive pas à faire réagir cette monoplace. Alors, il y a eu toute une tragicomédie, lui-même a dit « Ah, j'ai envoyé un compte-rendu écrit, et il a communiqué là-dessus. » Bon, ce qui a fait sourire Charles Leclerc quand on lui a posé la question et qu'on lui a dit « Mais toi, t'as envoyé un truc écrit ?» Il dit « Ben non, moi je parle aux ingénieurs tous les jours pour la définition de la Formule 1 2026. » C'était pas une pierre dans son jardin, mais c'était une manière de dire « Bon, ne vous accrochez pas des détails comme ça. » Il arrive tout simplement pas à l'exploiter comme il faut, et là il est à ses limites. Bah écoute, il faut oser le dire, c'est pas un crime de lèse-majesté. Il a 40 ans révolu, 40 ans et demi, il a tout obtenu. Contrairement à ce qui a été dit partout, Ça n'a jamais été son rêve d'aller chez Ferrari. Je casse là aussi un jouet. Il l'a dit après, quand le contrat avait été signé. Mais rappelez-vous, chez Mercedes, il voulait finir sa carrière chez Mercedes. Il voulait rester ambassadeur à vie de Mercedes. Donc, il ne faut pas raconter n'importe quoi pour justifier ce transfert. Donc, malheureusement, on arrive peut-être au bout d'une histoire, d'une magnifique histoire. Mais à moins qu'à la rentrée, il ait trouvé, lui... Et l'écurie, il a trouvé les moyens de repartir sur les bonnes bases. Mais ça fait mal au cœur. Hein. J'espère surtout qu'il va retrouver la notion de plaisir en Formule 1, parce que c'est quand même le plus important.
Je ne sais pas chez qui ça sonne, messieurs, mais il faut décrocher là, ça a l'air urgent. Séraphin, c'est vrai qu'on nous a vendu ça comme le mariage du siècle, Hamilton qui va redonner des couleurs à Ferrari, le mariage parfait, Jean-Luc le disait, il voulait y aller. On a un peu, enfin pas tout l'inverse, mais là c'est clairement presque au plus bas là.
C'était le transfert de toute façon l'un des plus ou le plus énorme un champion du monde, 6 fois champion du monde
dans l'écurie mythique
de Mercedes,
7 fois.
Après McLaren déjà, voilà.
8 fois.
Non.
C'est là où justement il y avait énormément d'attentes. On l'a vu parce que ça a pris même une médiatisation, un sens très large en fait au sport, façon large de voir Ferrari et de voir l'association entre les deux pilotes. Donc on avait de l'attente. Après il y a plusieurs. Moi je suis un peu moins catégorique que Jean-Luc. Il y a plusieurs aussi choses qui fait que quand on arrive dans une écurie avec autant de passé dans une écurie antérieure comme il était chez Mercedes, la manière de comment on travaille aussi avec des gens du côté anglais, il y a tout à réapprendre finalement. Il y a un côté où on réapprend un peu comme un rookie certaines choses. Les process sont différents. Je pense qu'il a pas perdu le on pourra jamais le retirer, mais il y a peut-être effectivement encore ce temps qu'il a besoin. Il y a aussi peut-être, si on remarque bien, depuis qu'il y a eu les voitures à effet de sol, depuis 2022, c'était déjà très compliqué chez Mercedes. George Russell a fini par le battre. Donc c'est peut-être aussi une typologie, je sais pas, de voitures qui pourrait un peu moins lui correspondre, et c'est difficile. J'attends de voir quand même encore la saison complète pour juger sa saison.
Ça peut être long pour lui,
Ferrari.
La fin de saison.
Et en fait, je pense que du coup, il va encore plus se projeter sur l'année prochaine, parce que l'année dernière, il n'y avait que Charles Leclerc, la voiture avait été. Il y avait Sainz évidemment, mais il n'a pas participé aussi au réglage et au développement un peu de cette voiture. Donc peut-être que l'année prochaine, avec tout ce qui arrive de nouveau, qui va être énorme. Et aussi, du coup, lui, sa propre expérience de pilote qui va aussi mettre un peu dedans pour aider pour les réglages de la voiture. J'espère qu'il y aura une voiture qui va convenir un peu plus aussi à la Lewis Hamilton. Je pense que ça va être un peu mieux.
Tristan, rapidement, parce qu'après, on passera à McLaren. On y croit encore. Tu crois encore, toi, de ton côté, c'est trop tôt pour tirer un trait définitivement, on va dire, sur ce mariage?
Non, tirer un trait, ce serait trop rapide, parce que ça fait que 14 Grands Prix au final que l'équipe travaille avec Lewis Hamilton. Et au début du week-end, enfin en tout cas après les qualifications, quand il avait dit ça, j'avais vraiment l'impression qu'il tirait un peu la sonnette d'alarme par rapport à lui, son âge, etc. Et en fait, au fur et à mesure du week-end, et avec ce qui s'est passé notamment avec Charles Leclerc, je me rends compte que c'est peut-être simplement un immense plan de communication, parce qu'on leur a demandé de ne pas tirer sur Ferrari, on leur a demandé de ne pas tirer sur les ingénieurs. Cette nouvelle suspension n'a pas l'air de le convenir du tout. Et aujourd'hui, elle a peut-être été aussi la cause de pourquoi Charles Leclerc a dû, en tout cas Ferrari a dû, comme l'évoque Jean-Luc, peut-être rehausser les pressions pour éviter l'usure de la planche. Donc je tire pas la sonnette d'alarme. Par contre, cette trêve estivale, elle va faire du bien, ça
ouais.
C'est sûr.
Il l'a dit, ouais.
Juste un mot, et trois chiffres, si vous voulez, parce que j'ai quand même travaillé, je me suis reporté aux archives. Les arrivées de champions du monde chez Ferrari. On peut comparer, vous êtes d'accord, c'est des champions du monde. Je parle de Schumacher. Quand il arrive en 96, à la moitié de la saison, après 8 Grands Prix, il mène 26 points, allez-y 21. En 2010, quand Alonso, arrive chez Ferrari après ses deux titres chez Renault, vous le savez, en 2005-2006. Après 9 Grands Prix, 98 points, Massa 67. Et le dernier en date, Vettel, en 2015, quand il arrive après ses 4 titres, lui aussi il a passé toute sa carrière chez Red Bull. Après 9 Grands Prix, 135 points pour lui, 76 pour Raikkonen, qui par parenthèse est le dernier champion du monde pilote chez Ferrari.
Voilà. Et Lewis Hamilton qui est 6e actuellement au championnat du monde des pilotes, 109 points pour lui, frustré mais pas démotivé. Voilà ce qu'a dit Fred Vasseur, le boss de Ferrari.
Ah non, bah il faut l'espérer. Ouais.
Il faut l'espérer, évidemment. Ferrari pleure. Ce qui sourit, eh bien, ce sont les McLaren, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. 7e doublé en 14 Grands Prix pour McLaren. Victoire de Norris, on l'a dit, qui d'ailleurs a utilisé une stratégie à un arrêt. Piastri a fini dans la même seconde, mais juste derrière. 5e victoire de la saison pour Lando Norris, qui, Jean-Luc, revient à 9 petits points. Du leader du championnat du monde. C'est très très près et ça rend la fin de saison encore plus excitante si besoin il y avait.
Complètement. Bah écoute, là, chapeau à Lando qui a relevé vraiment le gant après son faux pas du Canada, vous vous en souvenez, hein, où il est venu percuter l'arrière de son équipier Piastri. Bon, là, c'est le seul circuit, on peut dire, où les McLaren étaient un petit peu moins depuis le début de la saison. Sinon, la domination est écrasante, outrageante même pour les adversaires, parce qu'au championnat constructeur, c'est vraiment la preuve tangible, hein, 559 points.
Oh oui, c'est terminé.
Tenez-vous bien, à 260. Ils ont pratiquement 300 points d'avance. C'est complètement dément. Donc le titre constructeur, on ne va même plus en parler. Voilà, ça c'est joué. Le titre pilote, bah, heureusement, les pilotes ont le droit de se battre.
Et ça, là, c'est quand même agréable. C'est quand même très agréable.
Ah, mais c'est génial. Écoute, c'est pour ça que j'ai mis une note élevée. Ah, parce qu'on les a laissés se battre et on a bien vu à l'avant-dernier tour l'attaque de Piastri sur Lando, qui était donc sur une stratégie différente, hein. Effectivement, en allumant son pneu, c'était un suspense formidable, hein. On ne savait pas s'il allait d'abord le rejoindre et si après il allait réussir à le passer. Et c'est exactement ce qu'a expliqué d'ailleurs Oscar Piastri. Il a dit: j'étais plus rapide tant que j'étais en mode de rapprochement, et c'est pas du tout la même histoire quand on est derrière avec une monoplace globalement égale, hein, à quelques dixièmes près. Là, j'ai eu du mal à entrer dans la bulle et malgré le DRS, j'arrivais à me rapprocher, mais tenter une attaque, c'était... Bah, c'est ça qui est formidable. Encore une fois, c'est ça le sport automobile. Et bravo et merci aux dirigeants de McLaren de laisser les pilotes se battre.
Tristan, ça prouve aussi que gros mental, hein, Lando Norris, qui n'était pas au mieux psychologiquement, on va dire, ces derniers mois, et qui là relève la tête, prend des décisions fortes et qui voit que ça paye. Ça peut aussi le relancer psychologiquement avant la trêve de 3 grosses semaines, 4 semaines quasiment.
Oui, je pense que ce Grand Prix va lui faire du bien, comme le Grand Prix de Silverstone et le Grand Prix de Grande-Bretagne lui a fait du bien avec cette victoire. On voit que c'est un pilote qui est entreprenant, qui va pas se laisser guider par l'écurie, tout comme son coéquipier Oscar Piastri d'ailleurs, et on sent qu'il est pleinement rentré dans le match, chose qui était peut-être pas forcément le cas plus vers le début de saison, où on sentait qu'il était un peu plus passif dans ses décisions, passif dans sa façon de construire son week-end. Là, ce week-end, au final, il prend un départ plutôt mauvais, entre guillemets.
Ouais, il perd deux places.
Il se retrouve cinquième.
Il se retrouve cinquième. Il aurait pu perdre très gros. Heureusement, j'ai envie de dire qu'il roule dans une McLaren, parce que si c'est pas une McLaren, c'est une autre histoire. Mais c'est un pilote qui, on l'a vu sur ses départs à chaque fois en pole position, on parle du taux de conversion de pole position de Charles Leclerc, celui de Lando Norris est pas non plus exceptionnel. On l'a souvent vu perdre ses grands prix au premier virage. Bah, il est peut-être un peu plus prudent que Oscar Piastri, mais en tout cas sur ce week-end, avec cette stratégie à un arrêt, bah, c'est ce qui a fonctionné. On a peut-être tenté le coup de bluff au sein même des ingénieurs qui s'occupent de la monoplace de Lando Norris face aux ingénieurs d'Oscar Piastri. Donc, comme Jean-Luc l'a dit, c'est très, très passionnant à regarder. Mais en tout cas, un week-end solide. Et Oscar Piastri, même si au final certains pouvaient critiquer un petit peu sa manœuvre en fin de course et il a été rappelé à l'ordre par son écurie et c'est normal, moi je vois aussi un pilote qui ne laisse aucune place à l'erreur pour Lando Norris, et c'est peut-être aussi pour ça que le championnat est aussi serré, aussi intéressant, c'est que les deux ne se laissent aucune marge d'erreur et que il sait que le Grand Prix, même à deux tours de l'arrivée, il n'est pas joué.
Je crois qu'on lui a dit dans les oreilles, c'est pas comme ça qu'on conduit Oscar. C'est bien de les voir prendre tous les risques. Enfin, c'est bien ou c'est pas bien en fait de les voir prendre tous les risques, parce que pour nous c'est bien. McLaren peut tout perdre parfois.
C'est vrai que
ça a été le cas pour Norris. Effectivement, Jean-Luc le rappelait il y a peu.
Ouais, c'est moi. C'est on peut que féliciter, a dit Jean-Luc, de laisser les deux pilotes effectivement chez McLaren faire ainsi la course. C'était pour notre plus grand plaisir. La bataille s'est jouée jusqu'au dernier tour. On termine à 6 dixièmes, Piastri derrière Norris. Il y a cette manœuvre quand même, l'avant-dernier tour de Piastri au premier virage. C'est vrai qu'il bloque les roues et c'était, il était vraiment pas passé loin de taper l'arrière. Mais en tout cas, c'était intéressant. Des deux côtés des murets, on a tenté en tout cas une stratégie à un arrêt chez Norris et ça a fonctionné. Il a eu raison, c'était audacieux et tout. Donc c'était hyper intéressant de voir ça. Donc maintenant, voilà, l'écart est très faible. Et on rappelle aussi le Canada avec l'incident quand même de Norris qui lui voit un DNF. Donc encore une fois, il termine à 0 points avec cette course-là.
Oui, il serait devant.
Et derrière, il serait devant, peut-être en tout cas. Et derrière,
il prenait 10 points, il serait devant d'un point normalement.
Voilà. Mais en tout cas, mentalement, il s'est bien remis depuis.
Juste Jean-Luc, rapidement, ça peut durer là, le fait que McLaren laisse les deux se battre, parce qu'à un moment donné, peut-être qu'ils vont dire, bon, on va pas prendre le risque de tout perdre sur telle ou telle course quand on va arriver en fin de saison. Même si l'écart est, limite j'ai envie de dire, tellement grand au classement du championnat du monde qu'on pourra se le permettre. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Luc?
Bah écoute, je pense qu'ils vont les laisser, il reste 10 Grands Prix quand
juste
même.
Juste à 90 points d'avance sur Norris deuxième, enfin quasiment 90 points sur Verstappen troisième. Donc,
Oui, il n'y a pas vraiment de risque de perdre les deux premières places. Donc je pense que la consigne première, c'était déjà la même à la grande époque, j'allais dire, dans les années 80, entre Senna et Prost, c'était de ne pas s'accrocher. Évidemment, c'est la hantise pour un patron d'écurie, c'est la hantise pour Andrea Stella, qui est à la manœuvre. C'est lui qui dirige la stratégie, c'est lui le team manager. C'est lui le patron exécutif de McLaren. Et donc, il leur dit, les gars, battez-vous, c'est magnifique, mais surtout, ne vous accrochez pas. Alors, effectivement, ces pilotes ont beau être magiques, je reprends l'appellation qu'on attribuait à Ayrton, bien sûr, ils le sont. Et bien, parfois, ils sont à l'extrême limite. Et on a vu le pneu avant droit de la McLaren d'Oscar Piastri allumé dans l'avant-dernier tour parce qu'il a tout tenté. Et on lui a dit, pourquoi t'as pas attendu le tour d'après? Ça, c'est facile dans un fauteuil du bord de la piste, mais lui il a dit j'ai vu une opportunité, j'ai vu qu'on était à l'avant-dernier tour, si je tentais pas là, il me restait qu'une possibilité, c'était le dernier, j'y suis allé. Et ça s'appelle un pilote de course, c'est aussi bête que ça. Donc c'est absolument fantastique, j'espère qu'on va leur laisser la bride sur le coup. Et on voit bien que les qualités de l'un que vous évoquiez longuement aussi, la placidité quelque part d'Oscar Piastri, ou plutôt sa froideur, moi je dirais, c'est ça qui est impressionnant, son aspect clinique de l'analyse par rapport au sentiment peut-être plus visible de Lando. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu dans les déclarations de Lando Norris après sa victoire, il a dit « C'est moi qui me pose le plus de problèmes. J'espère aussi que ça va m'apporter un peu plus de sérénité. »
Oui.
Donc c'est ça le paradoxe. C'est lui qui il concède que les problèmes peut-être qu'il peut avoir viennent de lui-même.
On avance, messieurs. Après avoir parlé de McLaren, vous aurez l'occasion de recommander probablement les doublés de McLaren sur cette fin de championnat. Parlons de Mercedes et surtout de Russell, troisième hier, podium pour lui. Antonelli, dixième, donc c'est mieux qu'en Belgique pour Mercedes. Il y avait une cinquième et une seizième place. Mais petit focus sur Russell, Jean-Luc. Alors, quatrième au classement du championnat du monde des pilotes, mais est-ce que c'est pas le troisième homme, finalement, du paddock en ce moment ?
En ce moment, oui. Alors, le paradoxe, c'est toujours les performances des monoplaces qui échappent totalement à la compréhension des équipes. Alors ça, c'est quand même un élément qui est extrêmement étonnant. Alors évidemment, entre la Belgique, qui est un circuit, vous le savez, le plus beau du monde, le toboggan des Ardennes, celui que les pilotes adorent, et celui qui est exigeant, parce que il faut concéder à la fois une grande vitesse de pointe dans la première et la dernière portion, et puis de l'appui, naturellement, dans la portion médiane. Là, la Hongrie, ce serait plutôt l'inverse. On dit toujours, c'est le Monaco sans les murs. Il faut un maximum d'appui aéro. Donc, quelque part, c'est effectivement normal qu'on ait des capacité de monoplace qui soit différente. Mais il y a un élément aussi important, c'est la température, vous le savez bien, pour les Mercedes, on l'a évoqué, ils le disent eux-mêmes à chaque fois, pour des raisons qu'ils ignorent, sinon ils trouveraient la solution. Les monoplaces fonctionnent toujours un peu mieux quand il fait frais que quand il fait très chaud. Or là, paradoxalement aussi, en Hongrie, avec les menaces de pluie, la température de la piste a baissé de 20 degrés. Elle était carrément de 50 degrés, 51 degrés même, le vendredi. Elle est tombée à une trentaine de degrés lors des qualifs, puisqu'il est même tombé quelques gouttes, et lors de la course le dimanche. Alors, du coup, Russell, qui a évidemment un métier, et moi aussi, j'espère quand même qu'on va finir par reconduire le contrat de Russell chez Mercedes, parce que c'est presque humiliant, c'est presque honteux, j'ose dire, de la part de Toto Wolff, de le considérer comme un pilote de remplacement par rapport à Verstappen, puisqu'il l'a assez dit, c'était son objectif. Je crois que Russell est un excellent pilote, quelqu'un qui est capable d'être champion du monde un jour, il faut sincèrement lui donner les moyens de le faire.
Il a gagné au Canada, on le rappelle notamment cette année, Tristan.
Oui, bah, un grand prix. J'ai envie de dire, aujourd'hui, George Russell, c'est peut-être le deuxième meilleur pilote sur le début de saison. En tout cas, j'ai l'impression avec Oscar Piastri, parce qu'il extrait le meilleur de sa Mercedes. Quand on voit Kimi Antonelli, il a eu du mal pendant une période, là, la dernière période, les 7 derniers grands prix, il a eu du mal depuis Imola, il l'a concédé lui-même. Mais la Mercedes avait également perdu en rythme pur. Et bah George Russell, il est là, il marque des points. Et au final, c'est le pilote que vous ne voyez pas du week-end et qui termine sur le podium, qui termine à la quatrième place. Il engrange des points. Alors, pour l'instant, face au classement constructeur au championnat avec Ferrari, bah ça a fait moins match parce que Kimi Antonelli marque moins de points que Lewis Hamilton si on l'ajoute à Charles Leclerc. Mais derrière, il reste dans le match avec Mercedes. Et comme le dit Jean-Luc... il montre encore une fois à quel point c'est un pilote de grande classe, de grand niveau, et à quel point Mercedes doit prolonger son contrat. Surtout que Verstappen a clairement expliqué ce week-end qu'il allait reconduire avec Red Bull.
Les deux d'ailleurs vont peut-être se bagarrer pour la troisième place du championnat. Verstappen 187 points, Russell 172 points. Donc pour les matheux comme vous, vous l'avez vite calculé, il y a 15 points d'écart entre les deux. Bon week-end aussi pour Aston Martin. On voulait l'évoquer, 16 points marqués parce qu'Alonso a fini 5e, Lance Stroll a fini 7e. Bon, est-ce que ça vaut le coup de faire ces calculs-là? Ils reviennent à 18 points de Williams, par exemple, au classement constructeur. Ça les ferait entrer dans le top 5, Séraphin. Est-ce qu'on doit y voir une progression? Est-ce que ça peut être et ça doit être un objectif?
De rester dans ce classement, bien sûr. C'est assez impressionnant, Aston Martin. Tu l'as dit, ils sont à 52 points et ils ont quand même marqué 38 points en 6 Grands Prix, donc depuis l'Espagne. Donc c'est quand même assez impressionnant pour eux. Déjà, les qualifications qui étaient incroyables,
bonnes,
deux Aston Martin classés aussi haut, et surtout aussi donc Stroll et Alonso qui sont très très proches au niveau du rythme. Donc on a vu que les deux pilotes ont su exploiter cette monoplace. Et alors le résultat derrière, effectivement, en course, où on a fait aussi une stratégie, on a suivi les autres, et en partant en médium, c'était un sacré train quand même derrière Alonso. Il y avait les pilotes de tête et il y avait Fernando Alonso qui manageait en fait aussi derrière, qui était, il l'a dit, il n'était pas tout à fait à son rythme optimal pour créer un train derrière et qui était assez impressionnant. C'est hyper positif pour eux. C'est quand on voit le week-end quand même la semaine dernière à Spa-Francorchamps où c'était un des pires week-ends où c'est resté en Q1 pardon. C'est vrai que c'est impressionnant de voir comment sur un week-end en plus sur un circuit qui sur le papier les avantageait pas énormément, hein, un circuit comme ça avec beaucoup de virages et qui n'est pas évident, c'est impressionnant. Alonso aussi, il est toujours... on parlait tout à l'heure d'Hamilton et de pilote de longévité.
44 ans,
c'était son anniversaire en plus récemment. Il fait un week-end où on sait que c'était compliqué dès le vendredi, où il n'a pas participé à la première séance d'essai libre. Et on sait que voilà, avec l'âge, il a des douleurs du dos. Il y a d'ailleurs cette petite... il a parlé même qu'il avait un système de coussin, un peu comme Schumacher avait fait à l'époque. Et donc, c'est super encourageant et ils vont se battre, j'espère, avec Kicksauber, parce qu'il y a un point d'écart quand même. Donc, on va voir s'ils vont rester compétitifs sur d'autres grands prix. C'est surprenant, en fait.
Jean-Luc, qu'est-ce que ça te fait de voir Fernando Alonso, 44 ans, se bagarrer avec Bortoleto, qui a 20 ans, qui était 6e, qui a fini 6e juste derrière? C'est quand même des scènes assez incroyables.
Oui, écoute, ça pourrait être son fils, hein,
bah
pour
oui,
être
oui,
clair.
C'est ça,
non, bah c'est, écoute, c'est génial. Le taureau des Asturies, hein, il n'a rien perdu de sa combativité. Je te dis, lui, il se perd pas en grandes déclarations médiatiques sur les réseaux sociaux. Il fait le boulot, il a la tête dans le guidon. Je crois d'ailleurs qu'il s'est retiré des réseaux sociaux il y a pas mal de temps à cause de toutes les conneries, disons-le carrément, qu'on y voit et qu'on y lit. Alors, pour expliquer peut-être une partie du redressement d'Aston, il y a deux hommes, vous me voyez venir. Hein, puisque vous connaissez bien la F1. Le premier, c'est Adrian Newey, dont on dit qu'évidemment, il ne touche pas à la monoplace 2025, qui se concentre sur la 2026. Oui, mon œil. Je pense que s'il a 2-3 suggestions à formuler en réunion, il doit les suggérer. Et deuxièmement, Enrico Cardile, qui, vous le savez, arrive, ça y est, enfin,
Ferrari,
officiellement, de chez Ferrari, et qui avait fait du très très bon travail chez Ferrari, qui était officiellement... il s'occupait de son jardin depuis un an. En fait, il avait... commencé commencé un petit peu à travailler au printemps et puis il y a même eu une plainte devant la justice pour faire appliquer la fameuse clause. Ferrari a exigé ça, mais là officiellement il est de retour. Bah, à mon avis, peut-être les deux hommes, il y a quand même tellement de compétences là qui s'est exprimée ailleurs que ça peut finir par jouer. Et puis je l'évoquais pour Mercedes tout à l'heure, un tracé totalement différent. Hein. Là où les Aston sont absolument nulle part, tant en qualif qu'en course, avec un Stroll 14e et un Alonso 17e en Belgique, bah, les voir là, non seulement bien se qualifier, mais en plus tenir la rampe en course, bah, c'est réjouissant. Voilà.
Dernière écurie de laquelle on voulait parler, c'est Red Bull. C'est moins réjouissant pour le coup. Verstappen 9e, Tsunoda 17e, très très loin. Des arrêts pas toujours bien sentis. Verstappen parlait de miracle par rapport à sa place sur la grille, qui était la 8e place après les qualifs. Jean-Luc, les débuts sont difficiles pour Laurent Méquies.
Ah oui, là effectivement, malheureusement pour lui, bon, il était déjà aux manettes en Belgique, hein, officiellement, mais il venait d'arriver, puisqu'on avait débarqué Christian Horner juste après la Grande-Bretagne. Écoute, oui, alors bah, évidemment, là, pour le moment, il n'a pas d'action. Hein,
non, c'est sûr, pas du tout, c'est pas de sa faute.
Voilà, un outrage, bien au contraire. Pour le moment, il consulte. Et en fait, je n'ai pas eu l'occasion non plus dans le paddock de dire tout le bien que je pense de Laurent Méquies, que je connais très bien, qui est un type absolument formidable, qui a un parcours éclairant, fantastique. C'est un ingénieur en plus, lui aussi. C'est
qui a gravi les échelons, hein.
Ah oui, bien sûr. Ben, il a commencé dans les petites équipes, hein, Minardi de mémoire, etc. Et puis après, il est passé par la FIA également, où il a fait du très très bon boulot pour améliorer la sécurité des monoplaces. Et après, il était chez Ferrari hein, en tant que numéro 2.
Tristan, un mot sur Red Bull. Qu'est-ce que ça t'inspire, ces déclarations? Et surtout, ce ventre mou, là, Verstappen, alors qu'il avait fini 4e en Belgique, Tsunoda n'était déjà pas dans les points. Bon, qu'est-ce que ça t'inspire? Qu'est-ce que ça peut vouloir dire aussi pour la suite?
Bah, on savait que la Red Bull, en tout cas à l'approche de ce week-end, ça allait être plus compliqué parce que cette Red Bull fonctionne moins sur des circuits qui ont des besoins aérodynamiques importants. Elle est moins rapide. De toute façon, c'est pour ça que Max Verstappen a fait sur les deux grands prix précédents, la Belgique et la Grande-Bretagne, des choix à l'aileron arrière, comme vous avez pu le voir, presque radicaux à la Monza. On avait l'impression de voir un... c'était plus un aileron arrière, hein, c'était une planche à repasser. Mais donc, je pense que Red Bull s'y attendait. Je pense que la trêve arrive également à bon point pour eux, comme pour Verstappen, parce qu'il y a eu récemment les rumeurs, le départ de Christian Horner. Ça fait beaucoup en peu de temps. Mais au final, rien d'alarmant parce que j'ai presque envie de dire, on le savait, et j'ai presque envie de dire qu'il y a du positif parce que quand on regarde, alors Yuki Tsunoda a végété dans le fond du classement sur la course parce qu'il a notamment pris des places de pénalité avec un changement complet de ses éléments moteurs, mais on le voit, j'ai l'impression qu'on le voit plus à l'aise avec sa monoplace depuis qu'il a les mêmes éléments que Max Verstappen, on va dire, et c'est peut-être plus rassurant pour la saison prochaine. Après, très clairement, cette année, Red Bull, on sent qu'avec l'arrivée de Laurent Méquies, ils vont très vite passer à autre chose et très vite passer sur l'année prochaine
juste
et la nouvelle réglementation.
Rapidement, Séraphin, là, la fin de ces rumeurs aussi, Tristan vient d'en parler, ça peut soulager, ça peut faire du bien. Un pilote comme Verstappen, tu penses que ça pouvait peut-être lui peser?
Non, parce que Verstappen, je ne crois pas, là, il a un tempérament où il le dit, il est assez, on va dire, fermé sur ce qui se passe à l'extérieur, justement, vis-à-vis des rumeurs. Je pense que là-dessus... c'est pas ça fait déjà quelques grands prix qu'il sait qu'il ne pourra plus avoir le titre cette année. Ça, il le sait très bien. Il est beaucoup plus finalement libéré. On sait qu'il a été papa aussi récemment. Donc non, il est assez, il est déjà conscient de ce qui se passe actuellement au sein de son écurie. Il est plutôt satisfait quand même que Horner soit parti. Il se sent plutôt bien avec Laurent Méquies. Donc je pense pas que ce soit un argument vis-à-vis de ces rumeurs de chez Mercedes. Et maintenant que c'est confirmé qu'il va rester, il a envie de voir ce qui se passe quand même pour l'année prochaine.
Jean-Luc, même avis sur la mentalité peut-être de Verstappen?
Écoute, oui, je disais déjà tout le bien de Laurent Méquies. Je sais pas si vous m'avez entendu. Si c'est oui, je recommence pas.
Oui, on a entendu.
Bon, c'est parfait. Donc, bah, Verstappen, c'est un professionnel, c'est un pilote, tout simplement. Lui aussi, la seule chose qui l'intéresse vraiment dans toute cette histoire, c'est le pilotage. Il l'a toujours dit, d'ailleurs, hein, c'est de travailler avec ses ingénieurs, d'améliorer cette monoplace déjà pour tirer tout ce qu'il peut tirer. Et il faut quand même rappeler qu'il est quand même parvenu, lui aussi, à s'imposer hein, avec ce que j'ose qualifier de trapanel à deux reprises. La dernière fois en Italie et auparavant au Japon. Il ne désespère pas évidemment de décrocher une autre victoire si la monoplace le lui permet. Là, elle était nulle part, la monoplace, sur ce tracé, sans qu'on sache pourquoi. Zéro efficacité, il a dit, j'avais l'impression de piloter sur de la glace. Donc même lui n'a pas trouvé la solution, alors que d'habitude ils sont un peu nulle part le vendredi, hein, vous vous rappelez, sur les autres circuits. Et puis on travaille, le samedi ça va déjà mieux, il arrive même à se qualifier plutôt pas mal parfois. Et puis en course, il sauve les meubles. Ben là, il n'est même pas parvenu à les sauver, il avait une efficacité qui était proche de zéro. Et c'est à son talent qu'on doit effectivement d'arracher ces deux points. Et puis bon, on a vu qu'il n'avait rien perdu de sa hargne, hein, avec la passe d'armes avec Hamilton, où il ne se touche pas. D'ailleurs, lui, il le dit, on m'a convoqué devant les commissaires, mais on ne s'est pas touché. Donc, il a tenté une attaque au virage numéro 4, qu'il a réussi. Et Hamilton, qui était en difficulté avec sa monoplace, eh bien, n'a eu d'autre choix que de s'écarter. Bref, Verstappen est là. Et comme vous l'évoquiez également, à juste titre, eh bien, Tsunoda a retrouvé une confiance qu'il n'avait pas, que lui a redonné Laurent Méquès, qu'il connaît très bien. Laurent Méquès dit beaucoup de bien de Tsunoda. Et espérons là aussi que pour les 10 derniers Grands Prix de la saison, ben, on va revoir Red Bull dans le coup. Pourquoi ? Dans l'intérêt du championnat, vous me voyez venir. Déjà des courses, parce qu'effectivement, à part Leclerc, Verstappen et Russell, vous me direz, ça fait déjà 3, mais il n'y a pas grand monde pour venir troubler le duo de McLaren. Bah, espérons que chacun aura les moyens techniques, et notamment Red Bull, de venir se battre.
On termine avec les Français, messieurs. 0 points en cumulé. Isaac Hadjar termine 11e, Ocon 16e, Gasly 19e, et donc dernier sur la piste, puisque Biermann est DNF, et les deux Alpines surtout, hein, 18 et 19, puisque Colapinto a fini juste devant Pierre Gasly. Je sais que Jean-Luc, tu voulais dire un petit mot sur Isaac Hadjar, qui est un petit peu plus dans le dur, et tu l'avais un petit peu senti venir.
Oui, bah depuis quelques Grands Prix. Hein. Alors, il y a des raisons, bien sûr, parfois techniques d'ailleurs. Hein. Mais on a bien vu qu'il y avait un coup de moins bien là depuis le Canada, pour des raisons diverses. Il n'a marqué qu'un tout petit point, et encore, c'était dans la coursinette du samedi. Hein. C'était dans la sprint race en Belgique. Il s'était maintenu à sa place, tout simplement. Bon, bah c'est bien, mais c'est pas suffisant. Surtout qu'il y a eu une montée en puissance de Lawson, à l'inverse, qui lui avait été tellement perturbé, tellement détruit, on va dire, par le fait d'être viré, hein,
qui
brutalement.
Qui finit 8e, hein, ce week-end.
Oui, ouais, voilà, de son baquet de chez Red Bull. Bah, on voit bien qu'à l'inverse, depuis l'Autriche, là, sur les 3 derniers Grands Prix, il totalise 16 points et qu'il est en train de remonter au classement. Donc, je dirais, je brandis un drapeau jaune, voilà, tout simplement. Oui, il y a des raisons, bien sûr qu'il y a des raisons. Il y a toujours des raisons quand ça marche moins bien. Mais bon, il est évident que là, Lawson est peut-être petit à petit en train de revenir au moins au niveau d'Isaac et peut-être devant sur le dernier Grand Prix.
On le rappelle, hein, il est tout jeune évidemment, Isaac Hadjar, 20 ans, première saison en Formule 1. Séraphin, sur quel perf ou non perf tu veux t'arrêter ? Hadjar, Haas, Alpine, Gasly, qu'est-ce qui t'a marqué peut-être sur le côté bleu-blanc-rouge ce week-end ?
Pour changer un peu, on va parler un peu de Ocon et de Haas, parce qu'on voit que c'est une voiture en fait qui est difficile à comprendre. Hein. Ça fait pas mal de Grands Prix où on sent que c'est compliqué. Berman, il est assez proche, honnêtement, il s'en sort plutôt bien face à Esteban qui est un pilote qui a beaucoup plus d'expérience, et je trouve que voilà, il avait marqué quelques points quand même. Il est pas si mal au classement, hein, il est 10e au classement, Esteban Ocon, mais là je sens que il est un peu absent depuis quelques courses. J'avais un peu plus d'espoir quand même en Belgique, où il y avait un rythme qui était plutôt bon et où c'était meilleur pour les deux, mais on sent que chez Haas, ça manque encore de... Voilà, on se prépare peut-être déjà encore... C'est une petite écurie quand même, hein, une des plus petites. Donc on sait que les moyens qui sont aussi de leur côté, on se concentre peut-être déjà beaucoup plus pour l'année prochaine, et on hésite de mettre trop de CB pour la fin de cette année, sachant ce qui se passe. Donc voilà, plus un petit coup, ouais, un coup dur pour Esteban qui n'arrive pas à trouver... la performance, et encore ce week-end, voilà, il se qualifie 18e quand même, donc c'est pas très bon.
Tristan, désolé, hein, les copains ont parlé de Hadjar et Ocon. Tu es obligé de parler d'Alpine. Je suis obligé de t'interroger sur Alpine.
C'est très bien, c'est ce sur quoi je voulais parler.
Bon, bah vas-y, j'allais dire, est-ce qu'on a encore des choses à dire sur Alpine en fait.
Moi, c'était simplement pour relever, pour une fois, la entre guillemets bonne performance de Franco Colapinto qui bat Pierre Gasly dans les qualifications. Par contre, le bémol de l'autre côté, c'est à quel point on remarque que si Pierre Gasly n'est pas. Ne surconduit pas sa pilote, ne surpilote pas pardon, sa monoplace et ne réalise pas une performance exceptionnelle, à quel point Alpine est végète en bas du classement et à quel point moi ce choix de Franco Colapinto devient de plus en plus une énigme, une énième énigme dans cette écurie.
Dollars.
Mais les dollars au bout d'un ils font des les dollars c'est bien mais quand on demande de faire des économies, qu'on prend un moteur Mercedes mais que derrière on demande encore des dollars, il faut aussi qu'il y ait une certaine logique. Là moi la logique je la vois pas, je vois juste un pilote qui est pas le pilote qu'on a vu en 2024, qui a peur de casser, qui a peur de perdre son siège et qui du coup roule 4 secondes moins vite que tout le monde. Donc Alpine dure ce week-end, mais encore une fois, merci Pierre Gasly pour les 20 points au classement constructeur, parce que sinon ce serait vraiment encore plus catastrophique que ça, et on espère que Pierre Gasly pourra faire une aussi bonne fin de saison qu'il a fait au final au début de cette saison 2025.
20 points, tu l'as dit pour Alpine, 10e et dernier du classement constructeur, 9e c'est Haas avec 35 points, un point également pour nos Français au classement du championnat du monde. Esteban Ocon est 10e, Hadjar 13e et Pierre Gasly sur son Alpine est 14e. Merci messieurs, c'est la trêve aussi pour vous, petite pause, on recharge les batteries, on change un petit peu ce qui a changé, c'est ça?
Oui, tu sais, il y a 2 semaines obligatoires en Formule 1, donc on va faire pareil. Oui.
Reposez-vous bien, on revient le 31 août, messieurs, Grand Prix des Pays-Bas. Enfin, on revient, la FA revient, nous on vous accompagne évidemment toutes les semaines sur RMC. Merci Séraphin, merci Tristan, merci Jean-Luc.
Merci Valentin, merci à vous.
À très vite, salut. Merci à vous de nous écouter, restez branchés sur RMC, la Formule 1, les podcasts ne s'arrêtent jamais. Ciao.
Le paddock RMC.